correspondance de la famille Brontë. Lettre choisie par Julie Aminte et traduite par Constance Lacroix. En direct du studio 118 de la Maison de la Radio. Premier épisode, des ambitions précoces.
Il y a quelque 200 ans, entre 1816 et 1820, naissaient les enfants Brontë. Leur mère mourut prématurément en 1821, ainsi que deux petites filles. Le révérend Brontë éleva seul les quatre enfants qui lui restaient, sans jamais trouver à se remarier. Et c'est dans le presbytère d'Haworth, dans le Yorkshire, sur la lande battue par les vents, que les âmes romanesques et solitaires de Charlotte, Branwell, Émilie et Anne s'échauffèrent. Tous les quatre, encouragés par leur père, laissent gambader leurs esprits et se construisent un univers commun, fait de royaumes imaginaires et de jeux de rôle pleins de magie et de surnaturel. Et ils écrivent. Dans des cahiers, sur des feuilles volantes, au dos des dessins, ils écrivent. Mais le temps passe et il faut grandir, penser à gagner sa vie et prendre place dans le monde, en renonçant en apparence à l'écriture. C'est de cette vie que témoigne la correspondance de la famille Brontë. Ces lettres, encore jamais traduites en France, nous renseignent sur cette famille hors norme. Charlotte y est tour à tour véhémente et mélancolique, mais toujours d'une grande humilité. Son frère Branwell laisse transparaître la déchéance d'un esprit prometteur. Quant à Émilie, elle fait montre d'une austérité caractéristique. Anne, enfin, écrit de véritables professions de foi. Si les trois sœurs Brontë sont passées à la postérité par leurs romans, que ce soit Jane Eyre pour Charlotte, Léo de Hurlevent pour Émilie ou Agnès Grey pour Anne, nul doute que leur correspondance laisse une trace inestimable de leur courte vie. Dans les lettres qui vont suivre, une voix prédomine, celle de Charlotte, qui, de toute la fratrie, a joui de la plus longue existence. Et c'est notamment grâce à sa correspondance avec Hélène Nossy, amie qu'elle rencontra à 15 ans au pensionnat de Miss Wooler, que l'on devine ce que fut intimement la vie de cette famille frappée par une destinée singulière. En 1835, Charlotte a 19 ans, Branwell 18, Émilie 17 et Anne 15. Charlotte à Hélène Nossy.
Haworth, le 2 juillet 1835. Chère Hélène, j'avais espéré avoir l'extrême plaisir de vous recevoir cet été à Haworth, mais il n'est pas d'entreprise humaine qui ne soit soustraite au changement, et il nous faut bien ajuster nos desseins au gré des événements. Nous voici prêts à nous disperser, débander et séparer. Émilie entre au pensionnat, Branwell s'en va à Londres, et moi, je me fais gouvernante. Cette dernière résolution, je l'ai prise moi-même, sachant qu'il me faudrait franchir ce pas un jour ou l'autre, et mieux vaut trop tôt que trop tard, comme dit le proverbe écossais. Je savais tout aussi bien, de surcroît, que papa n'aurait pas trop de son maigre revenu s'il parvenait à placer Branwell à l'Académie royale de peinture et Émilie à Roehead. Où résiderais-je, me demanderez-vous? Eh bien, ma très chère, à moins de 4 miles de chez vous, en un lieu qui ne nous est pas tout à fait inconnu, ni à vous ni à moi, car il s'agit tout bonnement de ce même Roehead susmentionné. Eh oui, dans l'école où je fus instruite, j'instruirai à mon tour. Miss Wooler m'en a fait la proposition en personne et je lui ai donné la préférence sur un ou deux postes de gouvernante que l'on m'avait offert chez des particuliers. Je suis triste, bien triste de devoir quitter la maison. Mais le devoir, la nécessité, sont des maîtres exigeants qui ne souffrent pas la moindre désobéissance. Faites part à Mercy de toute mon affection, de même qu'à Sarah et à Miss Nossy. Veuillez aussi transmettre mon souvenir respectueux à Mrs. Nossy et croyez, ma chère Hélène, à la tendre et chaleureuse affection de votre amie, Charlotte Brontë.
Loin de Haworth, Émilie dépérit. Il faut la renvoyer au presbytère au bout de 2 mois. Anne lui succède à Roehead d'octobre 1835 à décembre 1836. Branwell, pour sa part, n'est pas entré à l'Académie royale de peinture et n'est peut-être même jamais allé à Londres. À la fin de l'année 1835, il se propose au directeur de la prestigieuse revue Blackwood's Magazine pour remplacer le poète et romancier James Hogg, mort en novembre. Sa lettre demeure sans réponse, mais le jeune homme ne rend pas les armes. Branwell à Hartlepool Coleridge, directeur du Blackwood's Magazine.
Hours, le 8 avril 1836. Monsieur, veuillez donc au moins lire ceci. Vous trouverez ci-joint une bagatelle destinée à figurer dans Blackwood, mais aussi à vous fournir un échantillon de ma production, que, bon ou mauvais, vous voudrez bien, je l'espère, par-dessus tout, examiner en conséquence. Peut-être vous paraîtra-t-il d'une lecture fastidieuse, mais vous saurez du moins ce que vous gagnerez ou perdrez à le jeter au feu. Ce serait pure impudence de ma part que de vous vanter mes talents, puisque 5 minutes vous suffiront pour me dire s'ils valent un peu mieux ou non que fadaise et niaiserie. Je sais pour ma part que, dans le pire des cas, je ne pourrai jamais m'incliner devant leur médiocrité. Je me forgerai de nouvelles facultés, si je le peux, et pourvu que j'en reste maître, vous, monsieur, en verrez les fruits. Cependant, monsieur, ne croyez pas que je ne compose que des lamentations. Je suis au matin de ma vie, et mes jours ont trop d'éclat encore pour que je demeure dans de perpétuelles ténèbres. Ne me croyez pas davantage, je vous le demande avec une instance particulière, disposé à vous noyer sous des flots de poésie. Je vous envoie des vers pour cette fois, car cela se lit vite et jaillit du fond de mon cœur. S'ils parviennent à trouver le chemin du vôtre, publiez-les, et écrivez-moi pour me dire ce que vous pensez de cette contribution. Je vous adresserai alors de la prose. Quand mon envoi ne vaudrait rien, et que je n'aurais fait que vous dévoiler ma vanité et ma stupidité, ne me condamnez pas sans examen.
Charlotte à Hélène Nessy.
Roehead, le 10 mai 1836. Ma très chère Hélène, il y a à l'instant même quelque chose qui me chagrine profondément. C'est que si vous pensez le moins du monde à moi à cette heure, ce ne peut être, je le sais, que comme à une créature ingrate et sans âme. Vous vous figurez que je ne fais aucun cas du cœur généreux et fidèle que vous me dévoilez à travers les effusions de votre dernière lettre, mais vous faites erreur. Pourquoi ne vous ai-je pas répondu, s'il en est ainsi, me demanderez-vous ? Mais parce que j'attendais une lettre de Miss Wooler, afin de savoir si j'aurais ou non le temps de vous inviter à Hours avant la rentrée. Or, quand la lettre arriva, ce fut pour me rappeler séance tenante au pensionnat, et je n'eus pas le temps de vous écrire. Me le pardonnerez-vous ? Je vous connais. Vous ne sauriez demeurer longtemps fâché contre moi, et si d'aventure vous le vouliez, je vous mets au défi d'y parvenir. Vous aviez la bonté de vous inquiéter de ma santé ? Je me porte tout à fait bien à présent, et mon indisposition n'a jamais été très sérieuse. Le petit billet dont vous avez accompagné le parapluie m'est allé droit au cœur. Il reflétait plus d'intérêt, plus de sollicitude que je n'en mérite d'aucun mortel. Cependant, je ne veux pas jouer les hypocrites. Je ne répondrai pas comme vous l'auriez souhaité aux questions que vous formulez sur un ton si délicat, affectueux et amical. Ne vous méprenez pas. Ne croyez pas qu'il y ait en moi la moindre once de vertu réelle. Je ne vous ressemble pas. Si vous saviez mes pensées, les rêveries qui m'absorbent tout entière et ces embrasements de l'imagination qui par instant me consument et me font paraître la société telle qu'elle est, d'une navrante fadeur, vous n'éprouveriez pour moi que pitié et, je présume, mépris. Et pourtant, Hélène, je sais les trésors qui sont dans la Bible. Je les aime et les adore. Je distingue la source de vie dans toute sa clarté et sa splendeur, mais lorsque je m'incline pour m'y désaltérer, ses eaux pures fuient mes lèvres comme si j'étais une autre Tantale. Saluez de ma part votre mère et vos sœurs. Adieu, Charlotte. ne tardez pas trop à venir me voir. Ne croyez pas que je sois devenue folle. Cette lettre est un tissu de sottises.
Branwell à Hartley Coleridge, directeur du Blackwoods Magazine.
Hours, le 4 janvier 1837. Dans une lettre antérieure, je vous laissais entendre que j'étais en possession d'une œuvre d'un dessin bien supérieur, quelque imparfaite en fut l'exécution, à tout ce qui a pu paraître en feuilleton dans les pages du Blackwoods Magazine. Il s'agit bien entendu d'un texte en prose, mais dont l'ampleur et l'originalité ne sauraient se prêter à une description par lettre. Il faudrait plus, assurément, qu'un voyage de 300 miles pour m'arrêter, quand s'offre une occasion de mieux me connaître moi-même, et un espoir de faire entendre ma voix à travers le vaste monde. Allons, monsieur, je ne vous demande rien que ceci. Accordez-moi un entretien. Confirmez-moi en réponse à ma lettre que vous voulez bien me recevoir, ne fût-ce qu'une demi-heure. Vous n'aurez pas à le regretter, je vous le garantis. Voyons, vous en coûte-t-il donc tant d'écrire une seule ligne que cela doive vous faire renoncer à la certitude de faire une bonne action qui pourrait de plus tourner à votre avantage? Persisterez-vous dans ce fastidieux mutisme sans même savoir ce que vous refusez, ni à qui vous le refusez? Croyez-vous donc votre journal parvenu à un tel degré de perfection qu'il ne pourrait être que vain ou nuisible de vouloir encore lui apporter quelque chose? Est-ce l'orgueil qui vous dicte votre conduite? Ou les conventions? Ou quelques préjugés? Soyez un homme, monsieur, et laissez tout cela de côté. Écrivez-moi. Dites-moi que vous consentez à me recevoir, et je m'attacherai d'un cœur joyeux à mener à bien cette entreprise, qui, couronnée de succès, nous profitera l'un comme l'autre, et qui, en cas d'échec, aura du moins le mérite de me convaincre que la réussite est inaccessible.
Six jours plus tard. Branwell à William Wordsworth, poète et écrivain.
Hours, le 10 janvier 1837. Monsieur, je vous conjure avec les plus vives instances de bien vouloir lire le texte que je vous envoie et de me faire connaître votre verdict. Car j'ai passé toute ma vie du jour de ma naissance à celui d'aujourd'hui, où j'ai atteint ma 19e année, dans une localité isolée, perdue parmi les collines, où rien ne pouvait me révéler de quelle étoffe j'étais fait, ni de quoi j'étais capable. Je lus comme je buvais et mangeais, pour satisfaire un impérieux besoin de ma nature. Je me mis à écrire comme j'avais appris à parler, guidé par les élans et les émotions de mon esprit. Je ne pouvais m'en empêcher. Ce que je concevais, il me fallait l'exprimer, et tout était dit. Mon amour-propre, que nul compliment ne venait enfler, n'y avait aucune part, car il n'y a pas 6 personnes au monde qui sachent que j'ai jamais composé le moindre vers. Mais il s'est produit un changement. J'arrive à un âge où il convient de prendre soi-même en main son destin. Il me faut cultiver mes talents dans un dessin bien précis, et faute de pouvoir les mesurer moi-même, demander à autrui de juger de leur étendue. Mais cependant, il n'est pas un seul homme en ces lieux qui le puisse. Or, si d'aventure il ne valait rien, je ne peux me permettre de gâcher davantage un temps précieux en m'y adonnant. Veuillez me pardonner, monsieur, d'avoir osé vous soumettre un de mes écrits et solliciter votre avis. Je me suis adressé, ce faisant, à l'auteur dont les œuvres me sont plus chères que tout autre monument de notre littérature, l'auteur qui règne depuis toujours comme une divinité suprême sur mon esprit. Il me faut comparaître devant un juge dont la sentence n'admet aucun appel. Et je l'ai trouvé à la vérité, en celui qui a contribué à l'avancement de l'art poétique, tant en théorie qu'en pratique, et s'est si bien illustré dans l'un et l'autre domaine que son nom demeurera 1000 ans gravé dans les mémoires. J'entends, monsieur, faire mon chemin dans le monde, et je ne me fie pas pour cela au seul pouvoir de la poésie. Des vers peuvent lancer mon vaisseau, mais ils ne sauraient le garder à flot. Une prose riche de sens et de science,
quelques hardis et vigoureux coups d'essai pour me distinguer dans ma profession, voilà ce qui me permettra de conserver l'attention du public. Et c'est alors seulement que la poésie pourra revenir me prêter son éclat et auréoler mon nom de gloire. Mais avant de rien entreprendre, il est bon de se doter des moyens appropriés. Et comme ceux-ci ne sont pas encore en ma possession, je dois m'attacher à les acquérir par quelque biais que ce soit. Assurément, de nos jours, où il n'est pas un seul poète digne de ce nom, rien ne barrera la route à un candidat honorable à ce titre s'il s'en présente un. Je vous envoie le premier chant d'une œuvre de bien plus longue haleine. J'ai tenté d'y peindre un être aux passions ardentes et aux principes fragiles, aux prises avec un esprit exalté et des sentiments intenses, jusqu'au jour où l'âpre vieillesse prend le pas sur la jeunesse, et où les forfaits et les jouissances fugaces font place aux souffrances de l'esprit et au délabrement du corps. Certes, ce serait me moquer de votre patience que de vous envoyer l'intégralité de mon œuvre. Ce que vous avez sous les yeux ne se veut guère plus qu'une description sortie d'une imagination enfantine. Pour autant, lisez-le. Et comme vous éclaireriez un de vos semblables dans les ténèbres, si la bonté est une vertu qui vous tient à cœur, répondez-moi, ne fût-ce qu'un seul mot, pour me dire si je dois continuer à écrire ou y renoncer à jamais. Pardonnez-moi si je m'exprime avec trop de chaleur sur un tel sujet. La tiédeur m'est impossible. Croyez, monsieur, au profond respect de celui qui signe en toute sincérité votre très humble serviteur. Patrick Branwell Bronté.
Le long poème qui accompagne cette lettre de Branwell s'intitule « Combat de la chair et de l'esprit ». Wordsworth ne répond pas. Le poète de la simplicité est rebuté par les hyperboles de Branwell et surtout, à en croire son ami le poète lauréat Robert Southey, écœuré par les flatteries grossières qui lui sont prodiguées aux dépens de ses confrères. Dans une lettre aujourd'hui perdue, c'est à ce même Southey que Charlotte confie ses ambitions littéraires. Une femme ne peut et ne doit pas faire de la littérature la grande affaire de sa vie, répond-il, tout en saluant son talent. Charlotte à Robert Southey.
Roehead, le 16 mars 1837. Monsieur, je ne connaîtrai pas de repos aussi longtemps que je n'aurai pas répondu à votre lettre. Dussiez-vous me juger d'un zèle indiscret, il me faut vous remercier des avis aussi bienveillants qu'éclairés que vous avez bien voulu me donner. Je n'avais même pas osé espérer une telle réponse, et devant tant de délicatesse dans le ton, tant de noblesse dans le sentiment, il me faut taire mon émotion de crainte que vous ne me trouviez d'une exaltation ridicule. Je ne conçus d'abord à la lecture de votre lettre que honte et remords de m'être enhardi à vous importuner de ma gauche rhapsodie. Je sentis une cuisante rougeur se répandre sur tout mon visage quand je songeais aux feuillets innombrables que j'avais noircis d'effusion, qui jadis faisaient mes délices et aujourd'hui ne m'inspirent plus que confusion. Cependant, après un temps de réflexion et à la seconde lecture, je vis poindre une lueur à l'horizon. Vous ne me dites pas que mes écrits ne valent rien. Vous vous bornez à me mettre en garde contre la folie de cultiver les plaisirs de l'imagination au détriment de mes véritables devoirs, contre une pratique qui n'aurait d'autre ressort que la soif de notoriété ou l'aiguillon d'une égoïste émulation. Vous daignez me permettre de m'adonner à la poésie pour le seul amour de la poésie et pourvu que je ne néglige aucune des obligations de la vie réelle pour me livrer corps et âme à cette unique, exquise et dévorante volupté. Je crains bien, monsieur, que vous ne me trouviez fort étourdi. Je ne sais que trop que ma lettre précédente n'était du premier au dernier mot qu'un tissu d'absurdité, mais je ne suis pas la créature oiseuse et chimérique que ce discours semblait annoncer. Mon père est un homme d'église, qui jouit d'un revenu modeste, quoique suffisant. Je suis l'aîné de ses enfants. Il a employé pour mon éducation toutes les sources qu'il pouvait y consacrer sans léser le restant de sa famille. Aussi ai-je toujours cru de mon devoir de me faire gouvernante au sortir du pensionnat. Cette situation me donne trop à penser tout au long du jour et sollicite trop ma tête et mes mains pour qu'il me reste un seul instant à accorder aux rêveries de l'imagination. Dans la soirée, je l'avoue, je m'abandonne à mes réflexions, mais je n'en importune jamais quiconque. J'évite avec soin toute marque de distraction ou d'excentricité qui pourrait laisser soupçonner à mon entourage la nature de ce qui m'absorbe. Conformément aux recommandations de mon père, qui depuis mon plus jeune âge me prodigue ses avis avec une sagesse et une bonté toutes semblables à celles que reflète le ton de votre lettre, je me suis constamment appliquée non seulement à remplir tous les devoirs dont une femme doit s'acquitter, mais aussi à y prendre un vif intérêt. Je n'y parviens pas toujours, certes, car il est bien des fois où j'instruis mes élèves ou manie l'aiguille tout en brûlant d'envie de lire ou d'écrire, mais je m'efforce à l'abnégation, et l'approbation paternelle me récompense amplement de ce sacrifice. Permettez-moi de vous assurer une fois encore de ma gratitude la plus sincère. Jamais plus, je crois, je ne nourrirai l'ambition de voir mon nom imprimé. Et quand cette aspiration renaîtrait un jour, je n'aurai qu'à relire la lettre de Saouzi pour l'étouffer. C'est un honneur suffisant que de vous avoir écrit et d'avoir obtenu réponse. Votre lettre sera pour moi une relique sacrée. Nul ne la verra jamais, excepté papa, mon frère et mes sœurs. À nouveau, je vous remercie. Cet incident, je présume, ne se répétera pas. Si la vie m'est prêtée, je me remémorerai cet épisode, vieille femme, à 30 années de distance, comme un rêve éclatant. Le nom que vous soupçonniez être d'emprunt est bien le mien. Je ne puis donc signer, aujourd'hui encore, que votre servante, Charlotte Brontë. Postscriptum. De grâce, monsieur. Pardonnez-moi cette nouvelle lettre, je n'y pouvais tenir. Je désirais trop d'une part vous dire combien je vous sais gré de votre générosité, d'autre part vous assurer que vos conseils n'avaient pas été prodigués en vain, quelques chagrins et quelques regrets que l'on put d'abord éprouver à les suivre.
C'était « Correspondance de la famille Brontë », lettre choisie par Julie Aminte. Premier épisode. Avec les voix de Mélissa Barbeau, Benjamin Jungers et Laurent Lederer. Musique composée et interprétée par Floriane Bonani. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation, Claire Levasseur, Émilie Couette, Vivien Demeyer, Juliette Eman. Les lettres choisies de la famille Brontë, 1821-1855, dans la traduction de Constance Lacroix, sont publiées aux éditions Quai Voltaire, La Table Ronde.